Chapitre 7. Lorsque notre ami fut pansé et habillé, le chirurgien se hâta de partir, à l'instant même où le joueur de harpe arrivait avec quelques paysans. Ils fabriquèrent bien vite un brancard avec des rameaux et des branchages entrelacés. Ils y placèrent le blessé, et sous la conduite d'un chasseur à cheval que les nobles voyageurs avaient laissé, ils le portèrent doucement au bas de la montagne. Le joueur de harpe, silencieux et rêveur, portait son instrument brisé. Quelques hommes s'étaient chargés du coffre de Philine, qui marchait négligemment à la suite, un paquet sous le bras. Mignon courait, tantôt en avant, tantôt à côté, à travers les arbres et les buissons, et ses regards se tournaient avec amour vers son protecteur. Enveloppé du manteau propice, il était couché doucement sur le brancard. Une flamme électrique semblait passer de la moelleuse étoffe dans tout son corps. Enfin, il éprouvait une sensation nouvelle et délicieuse. La belle dame qui s'était dépouillée pour lui de ce vêtement avait exercé sur lui une puissante influence. Il voyait le manteau tomber de ses épaules. La noble figure, environnée de rayons, était devant ses yeux, et son âme volait, à travers les rochers et les bois, sur la trace de la beauté disparue. Il était déjà nuit quand le cortège arriva devant l'auberge du village. Le reste de la troupe s'y trouvait et déplorait avec désespoir ses pertes irréparables. L'unique petite salle regorgeait de monde. Quelques-uns étaient couchés sur la paille, d'autres s'étaient emparés des bancs. Plusieurs se pressaient derrière le poêle, et Madame Mélina attendait avec angoisse sa délivrance dans un cabinet voisin. La frayeur en avait hâté le moment, et l'assistance de l'hôtesse, jeune femme sans expérience, ne promettait rien de bon. Quand les survenants demandèrent d'être hébergés, il s'éleva un murmure général. C'était uniquement par le conseil de Wilhelm, s'écriait-on, sous sa conduite particulière, qu'on avait suivi ce chemin et qu'on s'était exposé à ce malheur. On rejetait sur lui ce funeste événement. On s'opposait sur la porte à son entrée, et l'on prétendait le contraindre de chercher un autre gîte. Philine fut encore plus indignement traitée. Le joueur de harpe et Mignon essuyèrent leur part d'injures. Le chasseur, à qui sa belle maîtresse avait fortement recommandé ses malheureux, fut bientôt las de cette querelle. Il s'avança sur la troupe, en jurant et menaçant, lui ordonna de reculer et de faire place aux nouveaux venus. Alors on devint plus facile. Il disposa, pour y coucher Wilhelm, une table qu'il poussa dans un coin. Philine fit placer son coffre à côté et s'assit dessus. Chacun se serra de son mieux, et le chasseur sortit pour voir s'il ne trouverait pas aux jeunes époux un logement commode. À peine se fut-il éloigné que le mécontentement éclata de plus belle. C'étaient des reproches sans fin. Chacun détaillait, exagérait ses pertes. On maudissait la témérité qu'on avait payée si cher. On ne cachait pas même la maligne joie qu'on ressentait des blessures de notre ami. On persiflait Philine et l'on déclarait suspecte la manière dont elle avait sauvé ses effets. De maints colibés et maintes épigrammes, on aurait dû conclure que, pendant le pillage et la déroute, elle s'était appliquée à gagner la faveur du chef de la bande et l'avait décidé, Dieu sait par quels artifices et quelles complaisances, à épargner son coffre. On voulait qu'elle se fût quelque temps éclipsée. Philine ne répondait rien et se contentait de faire cliqueter le cadenas de sa malle pour convaincre ses envieux qu'il était toujours là et pour augmenter leur désespoir par son propre bonheur. Chapitre 8. Wilhelm, quoique affaibli pour avoir perdu beaucoup de sang et disposé à la douceur et à l'indulgence, après l'apparition de l'ange secourable, ne put contenir son indignation des propos injustes et durs que la troupe mécontente, encouragée par son silence, ne cessait de renouveler. Enfin, il se sentit assez de force pour se soulever et lui reprocher les indignités dont elle fatiguait un chef et un ami. Il leva sa tête, enveloppée d'un bandeau, puis, s'accoudant avec quelque peine et s'appuyant contre la muraille, il parla en ces termes. La douleur que chacun de vous éprouve de ces pertes fait que je vous pardonne de m'offenser, dans un moment où vous devriez me plaindre, et de me rebuter, de me repousser, la première fois que j'ai besoin de vos secours. Si je vous ai rendu quelque service, si j'ai eu pour vous quelque complaisance, votre gratitude et votre conduite amicale suffisaient pour ma récompense. Ne me provoquez pas. Ne m'obligez pas à revenir sur le passé et à récapituler ce que j'ai fait pour vous. Ce compte ne ferait que m'affliger. Le hasard m'a conduit au milieu de vous. Les circonstances et une inclination secrète m'ont retenu dans votre société. J'ai pris part à vos travaux, à vos plaisirs. J'ai mis à votre service le peu que je sais. Si vous me reprochez amèrement le malheur qui nous a frappés, vous avez donc oublié que la première idée de prendre ce chemin nous fut suggérée par des étrangers, que vous l'avez tous examiné et que chacun de vous l'avait approuvé aussi bien que moi. Si notre voyage s'était accompli heureusement, chacun se ferait honneur de cette bonne idée, s'applaudirait d'avoir conseillé ce chemin, de l'avoir préféré. Chacun se rappellerait avec joie nos délibérations et le suffrage qu'il avait donné. Maintenant, vous me rendez seul responsable. Vous rejetez sur moi une faute dont je me chargerai sans hésiter si le plus pur témoignage de ma conscience ne m'absolvait pas. Enfin, si je ne pouvais en appeler à vous-même. Si vous avez des torts à me reprocher, présentez-les convenablement et je saurai me défendre. Si vous n'avez rien de valable à dire, taisez-vous et ne me tourmentez pas. Maintenant que j'ai un si pressant besoin de repos. » Pour toute réponse, les jeunes filles recommencèrent à pleurer et à faire le détail de leur perte. Mélina était hors de lui, car il avait perdu plus que les autres, et plus que nous ne pouvons imaginer. Il se démenait comme un furieux dans la petite chambre. Il se battait la tête contre la cloison, jurait et maugréait de la manière la plus indécente. Et, l'hôtesse étant venue à ce moment lui annoncer que sa femme était accouchée d'un enfant mort, il se permit les plus violentes invectives, et tous ensemble hurlaient avec lui, criaient, grondaient, tempêtaient d'une commune voix. Wilhelm, ému tout à la fois jusqu'au fond du cœur, de compassion pour leur état et d'indignation pour leur bassesse, sentit renaître dans son corps affaibli toute la force de son âme. « Vous m'obligez, peu s'en faut, de vous mépriser, s'écria-t-il, si digne de pitié que vous puissiez être. Il n'est point de malheur qui nous autorise à charger de reproches un innocent. Si j'ai eu part à cette fausse démarche, j'en souffre aussi pour ma part. Me voilà blessé, et si la troupe a fait des pertes, c'est moi qui ai fait les plus grandes. » La garde-robe qu'on a pillée, les décorations détruites, étaient à moi. Car enfin, monsieur Mélina, vous ne m'avez pas encore payé, et je vous tiens quitte absolument. Le beau mérite, s'écria Mélina, de donner ce que personne ne reverra jamais. Votre argent était dans le coffre de ma femme, et c'est ce qu'on vous devait que vous avez perdu. Oh, s'il n'y avait que cela! Et de plus belle, il trépignait. Il insultait et criait. Chacun se rappelait les beaux habits de la garde-robe du comte, les boucles, les montres, les tabatières, les chapeaux, que Mélina avait achetés à si bon compte du valet de chambre. Puis, chacun passait en revue ses propres trésors, quoique bien moins considérables. On lorgnait avec dépit le coffre de Philine, et l'on faisait entendre à Wilhelm que vraiment il n'avait pas mal fait de s'associer avec cette belle, dont le bonheur avait sauvé ses propres effets. « Croyez-vous donc, leur dit-il avec véhémence, que j'aurai quelque chose en propre, aussi longtemps que vous serez dans la gêne? Que l'on ouvre le coffre. Je consacre aux besoins communs ce qui m'appartient. » C'est mon coffre, dit Philine, et je ne l'ouvrirai pas avant que cela me convienne. Les 2 ou 3 nibs que vous m'avez confiés produiraient peu d'argent quand elles seraient vendues aux plus honnêtes de tous les Juifs. Songez à vous, à ce que coûtera votre guérison, à ce qui peut vous survenir en pays étranger. Philine, s'écria Wilhelm, vous ne me retiendrez pas ce qui est à moi, et ce peu suffira pour nous tirer du premier embarras. Mais l'homme a d'autres ressources encore que les espèces sonnantes pour secourir ses amis. Tout ce qui est en moi, je le voue à ces infortunés, qui assurément, lorsqu'ils seront revenus à eux-mêmes, regretteront leur conduite présente. Oui, poursuivit-il, je sens vos besoins, et ce que je pourrai, je le ferai pour vous. Rendez-moi votre confiance, tranquillisez-vous pour le moment, acceptez mes promesses. Qui veut recevoir ma parole au nom de tous ? À ces mots, il tendit la main et il s'écria. « Je promets de ne pas vous quitter, de ne pas me séparer de vous, avant que chacun voie sa perte 2 fois et 3 fois réparée, avant que vous ayez complètement oublié l'état où vous êtes, quel qu'en puisse être l'auteur, et que vous l'ayez échangé contre un sort plus heureux. » Wilhelm présentait toujours sa main, et personne ne voulait la prendre. « Je le promets encore une fois !» s'écria-t-il en retombant sur le coussin. Tous gardèrent le silence. Ils étaient confus, mais non pas consolés. Et Philine, assise sur son coffre, grugeait des noix qu'elle avait trouvées dans sa poche. Chapitre 9. Le chasseur revint avec quelques hommes et se mit en devoir d'emporter le blessé. Il avait décidé le ministre du village à recevoir le jeune couple. On emporta le coffre de Philine, elle le suivait d'un air simple et modeste. Mignon courut en avant. En arrivant au presbytère, le blessé y trouva un grand lit conjugal, depuis longtemps préparé, comme lit d'honneur et d'hospitalité. Alors seulement, on s'aperçut que la blessure s'était rouverte et avait beaucoup saigné. Il fallut s'occuper d'un nouveau pansement. Le blessé eut un accès de fièvre. Philine le veilla fidèlement. Et, quand elle fut vaincue par la fatigue, le joueur de harpe prit sa place. Mignon, avec la ferme volonté de veiller, s'était endormi dans un coin. Le lendemain, Wilhelm se trouvant un peu mieux, le chasseur lui apprit que les nobles voyageurs qui les avaient secourus la veille venaient de quitter leur château pour s'éloigner du théâtre de la guerre et se retirer jusqu'à la paix dans un pays plus tranquille. Il dit le nom du vieux seigneur et de sa nièce, désigna le lieu où il se rendait d'abord et ne laissa pas ignorer à Wilhelm comme la jeune dame lui avait recommandé de prendre soin des malheureux voyageurs. Le chirurgien vint interrompre les vifs remerciements par lesquels notre ami épanchait sa reconnaissance. Il lit une description détaillée des blessures et assura qu'elle guérirait aisément si le blessé se tenait tranquille et se ménageait. Quand le chasseur fut parti, Philine informa Wilhelm qu'il lui avait laissé une bourse de 20 louis d'or, qu'il avait fait un présent au pasteur pour le prix du loyer, et déposer chez lui les honoraires du chirurgien, que du reste on la croyait absolument la femme de Wilhelm, qu'elle s'introduisait une fois pour toutes auprès de lui en cette qualité et ne souffrirait pas qu'il cherchât une autre garde. « Philine, répondit-il, vous m'avez déjà rendu de grands services dans notre malheureuse aventure, et je souhaiterais ne pas voir augmenter les obligations que je vous ai. Je ne serai pas tranquille, aussi longtemps que vous serez autour de moi, car je ne sais comment je pourrai reconnaître votre peine. Rendez-moi mes effets que vous avez sauvés dans votre coffre. Rejoignez le reste de la troupe. Cherchez un autre logement. Recevez mes remerciements et ma montre d'or comme un faible gage de ma reconnaissance. Adieu, quittez-moi. Votre présence m'agite plus que vous ne pensez. » Quand Wilhelm eut tout dit, Philine se prit à lui rire au nez. « Tu es fou, » dit-elle, « tu ne deviendras jamais sage. Je sais mieux que toi ce qu'il te faut. Je resterai. Je ne quitterai pas la place. Je n'ai jamais compté sur la reconnaissance des hommes, et tout aussi peu sur la tienne. Et si je t'aime, enfin, que t'importe ? Elle resta. Elle eut bientôt gagné les bonnes grâces du pasteur et de sa famille, étant toujours gaie, sachant faire à chacun de petits cadeaux, parler à chacun selon son goût. À côté de cela, faisant toujours ce qu'elle voulait. Wilhelm se trouvait assez bien. Le chirurgien, ignorant mais non maladroit, laissait agir la nature, et le malade fut bientôt en voie de guérison. Il brûlait d'impatience de se voir rétabli, afin de poursuivre avec ardeur ses plans et ses désirs. Il se rappelait sans cesse l'événement qui avait fait sur son cœur une impression ineffaçable. Il voyait la belle Amazone sortir à cheval de la forêt. Elle s'approchait, descendait de cheval, allait et venait, s'occupait de lui. Il voyait le manteau tomber de ses épaules. Il voyait sa figure, sa personne, briller et disparaître. Tous les rêves de sa jeunesse se rattachaient à cette image. Il croyait maintenant avoir vu de ses yeux l'héroïque Clorinde. Il se rappelait le prince royal, malade d'amour, et la belle princesse compatissante qui s'approchait de son lit avec un silence modeste. Il se disait quelquefois, dans ses méditations secrètes, les images de l'avenir ne pourraient-elles planer autour de nous dans le jeune âge comme dans le sommeil, et le pressentiment ne les rendrait-il point visibles à nos regards ingénus? Les germes de nos destinées futures ne seraient-ils point d'avance répandus par la main du sort pour nous donner, peut-être, un avant-goût des fruits que nous espérons cueillir un jour? Sur la couche où le retenait sa faiblesse, il eut le temps de se retracer mille fois cette scène. Mille fois il se rappela le son de cette douce voix. Et comme il enviait Philine, qui avait baisé cette main secourable. Souvent, l'aventure lui semblait un rêve, et il l'aurait tenue pour une fable si le manteau ne lui fût resté pour lui garantir la réalité de l'apparition. Aux soins extrêmes qu'il prenait de ce vêtement, se joignait le désir le plus vif de s'en couvrir. Aussitôt qu'il put se lever, il le jeta sur ses épaules, et tout le jour, il fut en crainte d'y faire une tache ou quelque déchirure. Chapitre 10. Laerte visitait son ami. Il n'avait pas assisté à la scène violente de l'auberge, étant alors couché dans une chambre haute. Il était parfaitement consolé de ses pertes et prenait son parti avec son refrain accoutumé « Qu'importe !» Il rapportait à Wilhelm différents traits ridicules de la troupe. Il accusait Madame Mélina de ne pleurer la perte de sa fille que pour n'avoir pas eu le plaisir germanique de faire baptiser une Mathilde. Pour son mari, c'était maintenant une chose manifeste qu'il avait eu beaucoup d'argent et que, dans le temps, il aurait pu fort bien se passer de l'avance qu'il avait tirée de Wilhelm. Il se disposait à partir par la première diligence, et il viendrait lui demander une lettre de recommandation pour son ami Serlot, dans la troupe duquel il espérait trouver de l'emploi, son entreprise particulière ayant échoué. Mignon avait été quelques jours fort silencieuse. Enfin, pressée de questions, elle finit par avouer qu'elle avait le bras droit foulé. « Tu en as l'obligation à ta témérité, » lui dit Philine. Puis elle raconta comme, dans le combat, l'enfant avait dégainé son couteau de chasse et, voyant son ami en danger, avait frappé hardiment sur les bandits, qu'enfin on l'avait prise par le bras et jetée de côté. On la gronda de n'avoir pas plus tôt déclaré son mal. Mais on comprit fort bien qu'elle avait eu peur du chirurgien, qui jusqu'alors l'avait toujours prise pour un garçon. On lui donna les soins nécessaires. Il lui fallut porter le bras en écharpe. Ce fut pour elle un nouveau chagrin, parce qu'elle dut laisser à Philine la meilleure part des soins et du service auprès de son amie. La gentille pécheresse ne s'en montra que plus diligente et plus attentive. Un matin, Wilhelm, en se réveillant, se trouva singulièrement rapproché d'elle. Pendant un sommeil agité, il avait glissé sur sa large couche du côté de la ruelle. Céline était étendue en travers sur le devant du lit. Elle semblait s'être endormie, étant assise sur le lit, occupée à lire. Le livre s'était échappé de sa main et elle était tombée en arrière, la tête vers la poitrine de Wilhelm, sur laquelle était répandue à flots sa blonde chevelure dénouée. Le désordre du sommeil relevait plus ses charmes que n'auraient fait l'artifice et le dessin de plaire. Un calme enfantin, souriant, était répandu sur son visage. Wilhelm l'observa quelque temps et paraissait se reprocher le plaisir avec lequel il la contemplait. Et nous ne savons s'il regretta ou s'il bénit sa situation, qui lui faisait une loi du calme et de la sagesse. Il l'avait considérée quelque temps avec attention lorsqu'elle parut s'éveiller. Il ferma doucement les yeux, mais il ne put s'empêcher d'entrouvrir les paupières et de l'observer lorsqu'elle rajusta sa toilette et qu'elle sortit pour savoir des nouvelles du déjeuner. Tous les comédiens s'étaient présentés successivement chez Wilhelm et lui avaient demandé, avec plus ou moins de rudesse et de grossièreté, des lettres de recommandation et de l'argent pour le voyage. Et toujours, contre le gré de Céline, ils en avaient obtenu. Vainement, elle représentait à son ami que le chasseur avait aussi remis à ses gens une somme considérable et qu'on se moquait de lui. Ils en vinrent même là-dessus à une vive dispute, et Wilhelm lui déclara, une fois pour toutes, qu'elle ferait bien de rejoindre le reste de la troupe et de chercher fortune auprès de Serlot. Elle ne perdit qu'un moment son insouciance. Puis elle se remit bien vite et s'écria « Si je retrouvais seulement mon blondin, je me soucierais fort peu de vous tous. » Elle voulait parler du petit Frédéric qui avait disparu du champ de bataille et dès lors ne s'était plus montré. Le lendemain, Mignon vint apprendre à Wilhelm, dans son lit, que Philine était partie pendant la nuit. Elle avait laissé en bon ordre, dans la chambre voisine, tout ce qui appartenait à Wilhelm. Il sentit son absence. Il avait perdu en elle une garde fidèle, une compagne agréable. Il n'avait plus l'habitude d'être seul. Mais Mignon combla bientôt ce vide. Tandis que cette beauté légère avait environné le blessé de ses soins caressants, la petite fille s'était retirée insensiblement à l'écart, recueillie et silencieuse. Mais, lorsqu'elle retrouva le champ libre, elle fit paraître sa vigilance et son amour. Elle était empressée pour servir son maître et joyeuse pour le distraire. Chapitre 11. La guérison faisait des progrès rapides. Wilhelm espérait pouvoir se mettre en chemin dans peu de jours. Il ne voulait plus mener à l'aventure une vie indolente. Une marche calculée devait régler désormais sa carrière. Il voulait d'abord chercher les secourables seigneurs afin de leur témoigner sa reconnaissance. Ensuite, il se hâterait de rejoindre le directeur, son ami, afin de pourvoir de son mieux aux intérêts des malheureux comédiens. Il verrait en même temps les correspondants auxquels il était adressé et il traiterait les affaires dont il était chargé. Il se flattait que la fortune le seconderait à l'avenir comme auparavant et lui fournirait l'occasion de réparer ses pertes par quelque heureuse opération de commerce et de combler le vide qui s'était fait dans sa caisse. Son désir de revoir sa libératrice croissait de jour en jour. Pour fixer son itinéraire, il consulta le pasteur, qui avait de grandes connaissances en géographie et en statistique, et qui possédait une belle collection de livres et de cartes. On chercha le lieu que les nobles voyageurs avaient choisi pour leur résidence pendant la guerre. On chercha des renseignements sur eux-mêmes. Mais le lieu ne se trouvait dans aucune géographie, dans aucune carte, et les manuels de généalogie ne disaient rien de la famille. Wilhelm prit de l'inquiétude, et comme il laissait paraître du chagrin, le joueur de harpe lui fit entendre qu'il avait lieu de croire que, pour un motif quelconque, le chasseur lui avait caché le véritable nom. Mais notre ami, se croyant dans le voisinage de la belle dame, espéra en recueillir quelques nouvelles s'il envoyait le joueur de harpe à la découverte. Cette espérance fut encore trompée. Le vieillard eut beau prendre des informations, elles ne le mirent point sur la trace. On avait vu à cette époque beaucoup de mouvements rapides et de marches imprévues dans la contrée. Personne n'avait pris garde à ces voyageurs, si bien que le messager envoyé à la découverte avait dû revenir, de peur qu'on ne le prît pour un espion juif, et reparaître devant son maître et son ami sans rameau d'olivier. Il rendit un compte exact de la manière dont il avait cherché à remplir son message, voulant éloigner de lui tout soupçon de négligence. Il cherchait par tous les moyens à calmer le chagrin de Wilhelm. Il repassait en lui-même tout ce qu'il avait appris du chasseur et mettait en avant maintes conjectures, parmi lesquelles il se présenta enfin une circonstance qui permit à Wilhelm de s'expliquer quelques paroles énigmatiques de la belle inconnue. En effet, ce n'était pas la troupe ambulante que les brigands attendaient au passage. C'était cette noble famille qu'ils supposaient avec raison pourvue de beaucoup d'or et d'objets précieux et dont la marche devait leur être parfaitement connue. On ne savait s'il fallait accuser de l'attentat un corps franc, des maraudeurs ou des brigands. Quoi qu'il en fût, heureusement pour la noble et riche caravane, les chétifs et les pauvres avaient occupé les premiers la place et subi le sort que l'on réservait aux autres. Tel était le sens des paroles de la jeune dame que Wilhelm avait fort bien retenues. Si donc il pouvait être heureux et satisfait de ce qu'un génie prévoyant l'avait choisi pour être la victime qui devait sauver une mortelle accomplie, en revanche, il était comme désespéré de voir que, du moins pour le moment, toute chance de la retrouver, de la revoir, avait disparu. Ce qui augmentait son trouble était la ressemblance qu'il croyait avoir découverte entre la comtesse et la belle inconnue. Elles se ressemblaient comme peuvent se ressembler deux sœurs, dont aucune ne saurait être appelée l'aînée ou la cadette, et que l'on dirait deux sœurs jumelles. Le souvenir de l'aimable comtesse lui était d'une douceur infinie. Il ne se rappelait que trop tendrement son image. Maintenant, la figure de la noble amazone venait d'abord à la traverse. Ces apparitions se transformaient mutuellement sans qu'il fût capable de fixer à part l'une ou l'autre dans son esprit. Aussi, combien ne dut-il pas être surpris en voyant la ressemblance de leur écriture. Il conservait dans son portefeuille une charmante poésie écrite de la main de la comtesse, et il avait trouvé dans le manteau un petit billet par lequel on s'informait avec un soin fort tendre de la santé d'un oncle. Wilhelm était persuadé que sa libératrice avait écrit ce billet pendant le voyage, qu'elle l'avait envoyé dans une auberge, d'une chambre à une autre, et que l'oncle l'avait serré dans sa poche. Wilhelm confrontait les deux écritures, et si les gracieux caractères tracés par la main de la comtesse l'avaient jusqu'alors enchanté, il trouvait dans les traits pareils, mais plus libres de l'inconnu, une admirable et facile harmonie. Le billet était insignifiant, mais les caractères semblaient exalter notre ami, comme avait fait la présence de cette belle. Il tomba dans une rêveuse langueur, à laquelle répondaient parfaitement les strophes que Mignon et le joueur de harpe chantèrent en ce moment avec la plus tendre expression. Celui qui connaît la langueur dira seul ce que je souffre. Isolée, étrangère à toute joie, je regarde au firmament, de ce côté là-bas. Hélas, celui qui me connaît et qui m'aime est loin de moi. Le vertige me prend, un feu me dévore le sein. Celui qui connaît la langueur dira seul ce que je souffre. Chapitre 12. Les 12 appels de l'ange gardien, au lieu d'ouvrir à notre ami quelque chemin, ne faisaient que nourrir et redoubler l'inquiétude qu'il avait sentie jusqu'alors. Une ardeur secrète circulait dans ses veines. Des objets vagues ou déterminés se succédaient dans son âme et réveillaient en lui des aspirations infinies. Il désirait tantôt un coursier, tantôt des ailes. Il lui semblait impossible de rester en place, et il se demandait encore de quel côté il voulait courir. Le fil de sa destinée s'était singulièrement embrouillé. Il souhaitait d'en voir délier ou trancher les nœuds étranges. Souvent, s'il entendait le trot d'un cheval ou le roulement d'une voiture, il regardait bien vite par la fenêtre, dans l'espérance que peut-être quelqu'un venait le chercher et lui apportait, fût-ce même par hasard, des nouvelles, la certitude et la joie. Il se racontait des histoires à lui-même. Son ami Werner pourrait bien arriver dans ce pays et le surprendre. Marianne allait peut-être se montrer à sa vue. Les sons du corps de chaque postillon le mettaient en mouvement. Mélina lui donnerait de ses nouvelles. Mais surtout, le chasseur allait revenir et l'inviter à se rendre auprès d'une femme adorée. Hélas, de toutes ces choses, aucune ne se réalisait, et il finissait par se retrouver seul avec lui-même. Et, dans la revue qu'il faisait du passé, une circonstance lui était plus pénible et plus insupportable à mesure qu'il l'examinait et la considérait davantage. C'était la malheureuse marche militaire dont il s'était fait le chef. Il ne pouvait y songer sans douleur. En effet, quoiqu'il se fût justifié assez éloquemment devant la troupe, le soir même de ce jour fatal, il ne pouvait se dissimuler sa faute. Même dans ses moments d'humeur noire, il s'attribuait à lui seul tout l'accident. L'amour-propre nous exagère nos défauts, aussi bien que nos vertus. Wilhelm avait excité ses camarades à prendre confiance en lui. Il avait conduit leur volonté. Entraîné par l'inexpérience et l'audace, il avait pris les devants. Un danger les avait surpris, auquel leur force ne pouvait faire tête. Des reproches le poursuivaient, avec des cris ou de sourds murmures. Et lorsqu'après cette sensible perte, il avait promis aux comédiens, égarés sous sa conduite, de ne pas les abandonner avant de les avoir dédommagés avec usure, il s'était rendu coupable d'une nouvelle témérité, en se faisant fort de reporter sur ses épaules le mal réparti sur toute la troupe. Tantôt il se reprochait d'avoir fait cette promesse dans la chaleur et l'exaltation du moment, tantôt il revenait à sentir que l'offre bienveillante de sa main, que personne n'avait daigné accepter, n'était qu'une frivole formalité auprès du vœu que son cœur avait fait. Il songeait aux moyens d'être utile et secourable à ses malheureux, et trouvait qu'il avait tout sujet de hâter sa visite à Serlo. Il fit ses paquets, et sans attendre sa complète guérison, sans écouter les conseils du pasteur et du chirurgien, prenant avec lui Mignon et le joueur de harpe, son escorte bizarre, il se hâta de fuir l'oisiveté, dans laquelle sa destinée l'avait de nouveau retenu trop longtemps. Chapitre 13. Serlo le reçut à bras ouverts et s'écria en courant à lui « Est-ce bien vous ? Oui, je vous reconnais. Vous êtes peu changé, ou plutôt vous êtes toujours le même. Votre passion pour le plus noble des arts est-elle toujours aussi forte, aussi vive ? Je suis ravi de votre arrivée, et je ne sens plus la défiance que vos dernières lettres m'avaient inspirée. » Wilhelm, étonné, demanda une explication. « Vous n'avez pas agi avec moi, reprit Serlo, comme avec un ancien ami. Vous m'avez traité comme un grand seigneur, à qui l'on peut recommander sans scrupule des gens ineptes. Notre sort dépend des dispositions du public, et je crains que votre monsieur Mélina et son monde n'aient de la peine à trouver ici un accueil favorable. » Wilhelm voulut dire quelques mots en leur faveur, mais Serlo se mit à faire de ces gens une description si impitoyable que notre ami fut très heureux de voir la conversation interrompue par l'arrivée d'une dame que Serlot lui présenta. C'était sa sœur Aurélie. Elle fit à Wilhelm le plus aimable accueil, et sa conversation fut si agréable qu'il ne remarqua point une teinte prononcée de mélancolie qui donnait à sa spirituelle physionomie un intérêt particulier. Pour la première fois depuis longtemps, Wilhelm se retrouvait dans son élément. Il n'avait rencontré jusqu'alors que des auditeurs à peine disposés à l'entendre. Maintenant, il avait le bonheur de parler à des artistes et à des connaisseurs qui le comprenaient parfaitement et dont les répliques pouvaient même l'instruire. Avec quelle rapidité on parcourut les pièces nouvelles! Avec quelle sûreté on les jugea! Comme on sut peser et apprécier le jugement du public! Avec quelle promptitude on s'entendit de part et d'autre! La prédilection de notre ami pour Shakespeare ne pouvait manquer d'amener la conversation sur ce poète. Il exprima la plus vive espérance que ses excellents ouvrages feraient époque en Allemagne, et il ne tarda pas à produire son Hamlet qu'il avait tant occupé. Serlot assura qu'il aurait dès longtemps donné la pièce si la chose eût été possible, qu'il se chargerait volontiers du rôle de Polonius. Et Ophélie se trouvera, je pense, ajouta-t-il en souriant, si nous pouvons seulement trouver le prince. Wilhelm ne s'aperçut point que cette plaisanterie du frère parut déplaire à la sœur, et à sa manière, il exposa longuement et doctement dans quel esprit il voudrait que le rôle d'Hamlet fût joué. Il présenta dans le plus grand détail les résultats dont nous l'avons vu occupé, et se donna beaucoup de peine pour faire accueillir son opinion, quelques doutes que Serlot éleva contre son hypothèse. « Eh bien, soit, dit enfin le directeur, nous vous accordons tout cela. Quelle en sera selon vous la conséquence ? Elle sera grande, elle sera décisive, répliqua Wilhelm. Imaginez un prince, tel que je l'ai dépeint, dont le père meurt soudainement. L'ambition et la soif du pouvoir ne sont point les passions qui l'animent, car il lui suffisait d'être fils de roi. Maintenant, il est forcé d'observer avec plus d'attention la distance qui sépare le roi du sujet. La couronne n'était pas héréditaire. Cependant, si le père avait vécu plus longtemps, les droits de son fils unique en auraient acquis plus de consistance, et son espérance de succéder au trône était garantie. Maintenant, en dépit de feintes promesses, il se voit exclu, peut-être à jamais, par son oncle. Il se sent dépourvu de crédit, de richesse, étranger dans le pays qu'il pouvait, dès son enfance, considérer comme son patrimoine. Alors apparaissent ses dispositions à la mélancolie. Il sent qu'il n'est pas plus, qu'il n'est pas même autant qu'un simple gentilhomme. Il se donne pour le serviteur de chacun. Il n'est pas affable, il n'est pas gracieux, il est humble et indigent. Son état précédent n'est plus à ses yeux qu'un songe évanoui. Vainement son oncle veut-il relever son courage, lui faire envisager sa position sous un autre point de vue. Le sentiment de sa nullité ne le quitte jamais. Le second coup qui l'a frappé, qui l'a blessé plus profondément et humilié toujours davantage, c'est le mariage de sa mère. À ce fils tendre et fidèle, quand son père mourut, il restait encore une mère. Il espérait pouvoir, dans la société de cette mère auguste qui lui était laissée, honorer le héros descendu dans la tombe. Mais il perd aussi sa mère, et c'est pour lui un coup plus fatal que si la mort l'avait ravi. Elle s'évanouit, l'image rassurante qu'un fils bien-né aime à se faire de ses parents. Chez le mort, aucun secours. Chez celle qui survit, aucun soutien. Elle est femme aussi, et la fragilité, attribut commun de son sexe, l'assujettit à sa loi. C'est alors qu'il se sent courbé vers la terre, alors qu'il est vraiment orphelin. Aucun bien de ce monde ne lui peut rendre ce qu'il a perdu. Il n'est point triste et rêveur par nature. La tristesse et la rêverie lui pèsent. C'est ainsi que nous le voyons se produire. Je ne crois pas ajouter rien à la pièce, ni exagérer aucun trait. « Eh bien, » dit Serlot à sa sœur, « te faisais-je un portrait infidèle de notre ami ? Il commence bien, et va nous débiter et nous faire accroire encore bien des choses. » Wilhelm protesta hautement qu'il ne voulait pas faire accroire, mais convaincre, et demanda encore un moment de patience. « Figurez-vous, » poursuivit-il, « ce jeune homme, ce fils de roi, vivant sous vos yeux. Représentez-vous sa position, et puis observez-le quand il apprend que l'ombre de son père apparaît. Suivez-le dans la nuit terrible où le spectre vénérable se lève devant lui. Une affreuse épouvante le saisit. Il apostrophe le fantôme, il le voit lui faire un signe, il le suit et l'écoute. La plus horrible accusation contre son oncle résonne à ses oreilles. Puis un appel à la vengeance, et l'instant de prière, deux fois répété, « Souviens-toi de moi !» Et quand le fantôme a disparu, qui voyons-nous devant nos yeux? Est-ce un jeune héros qui ne respire que vengeance? Un prince légitime qui se sent heureux qu'on l'invite à frapper l'usurpateur de sa couronne? Non. L'étonnement et la mélancolie s'emparent du solitaire. Il a des railleries amères pour les coupables qui sourient. Il jure de ne pas oublier le mort, et finit en exhalant cette plainte significative « Le temps est sorti de ses voies, malheur à moi qui suis né pour l'y faire rentrer. » Ces paroles me semblent expliquer toute la conduite du prince. Il est évident pour moi que Shakespeare a voulu peindre un grand acte imposé à une âme trop faible pour l'accomplir, et je vois cette pensée dominer dans toute la pièce. C'est un chêne planté dans un vase précieux qui n'aurait dû recevoir dans son sein que d'aimables fleurs. Les racines s'étendent et le vase est brisé. Un beau caractère, pur, noble, éminemment moral, sans la complexion vigoureuse qui fait le héros, succombe sous un fardeau qu'il ne peut ni porter ni rejeter. Tous les devoirs sont sacrés pour lui. Celui-là est trop pesant. On lui demande l'impossible. Non l'impossible en soi, mais ce qui est impossible pour lui. Comme il se tourmente, se replie, s'agite, avance et recule, reçoit toujours de nouveaux avis, se les rappelle sans cesse, et finit presque par oublier son dessein, sans jamais retrouver la sérénité. Chapitre 14. L'arrivée de plusieurs personnes interrompit l'entretien. C'étaient des musiciens qui avaient coutume de se réunir chez Serlot, une fois par semaine, pour un petit concert. Il aimait beaucoup la musique et soutenait qu'un acteur qui ne l'aime pas ne saurait acquérir une notion claire et un sentiment distinct de son art. Comme l'action du corps est bien plus décente et plus facile quand les gestes sont conduits et accompagnés par une mélodie, le comédien doit disposer un rôle, même écrit en prose, de manière à ne pas le débiter d'une façon monotone, en suivant ses habitudes personnelles, mais à le traiter avec les inflexions convenables, suivant les lois du rythme et de la mesure. Aurélie semblait prendre peu d'intérêt à ce qui se passait autour d'elle. Elle finit par conduire notre amie dans une chambre voisine et, se mettant à la fenêtre, les yeux levés vers le ciel étoilé, elle dit à Wilhelm « Vous nous devez encore sur Hamlet plus d'une observation, mais je ne veux pas être importune, et je souhaite que mon frère entende aussi ce que vous avez encore à nous dire. En attendant, faites-moi connaître ce que vous pensez d'Ophélie. » « On ne saurait en dire beaucoup de choses, » répondit Wilhelm. « En effet, quelques traits de maître suffisent pour dessiner son caractère. » Une sensibilité douce et profonde anime tout son être. Son amour pour le prince, à la main duquel elle a droit de prétendre, coule de source d'une façon si naïve. Ce bon cœur s'abandonne si complètement à son désir que le père et le frère s'en alarment et l'avertissent tous deux avec une franchise grossière. La bienséance, comme la gaze légère qui couvre son sein, ne peut cacher les battements de son cœur et trahit plutôt ses mouvements légers. Son imagination est séduite, sa secrète modestie respire une amoureuse langueur, et si l'occasion, facile déesse, venait secouer l'arbrisseau, le fruit tomberait à l'instant. Mais, dit Aurélie, lorsqu'elle se voit abandonnée, repoussée, dédaignée, quand l'essor le plus sublime se change dans l'âme de son amant insensé en une chute profonde, et qu'au lieu de la coupe délicieuse de l'amour, il lui présente le calice amer de la souffrance. « Son cœur se brise, » reprit Wilhelm. « Tous les appuis de son être sont ébranlés. La mort de son père éclate comme un coup de tonnerre, et le bel édifice s'écroule tout entier. » Wilhelm n'avait pas remarqué avec quelle expression Aurélie avait prononcé les derniers mots auxquels il venait de répondre. Uniquement occupé de l'œuvre littéraire, de son ensemble et de sa perfection, il ne soupçonnait pas que la sœur de son ami éprouvait de tout autres émotions, qu'une douleur profonde était vivement excitée chez Aurélie par ces dramatiques images. Jusqu'à ce moment, elle était demeurée la tête appuyée sur ses deux mains, et ses yeux pleins de larmes se tournaient vers le ciel. Enfin, ne pouvant contenir plus longtemps sa douleur secrète, elle prit les deux mains de l'ami, immobile de surprise devant elle. « Pardonnez, lui dit Aurélie, pardonnez à un cœur plein d'angoisse. La société me gêne et m'oppresse. Il faut que je me cache à mon impitoyable frère. Votre présence a brisé tous ses liens. Mon ami, poursuivit-elle, « je ne vous connais que depuis une heure, et déjà vous allez être mon confident. » L'émotion lui coupait la voix. Elle se laissa tomber sur l'épaule de Wilhelm. « Ne jugez pas mal de moi, » dit-elle avec des sanglots, « si je m'ouvre d'abord à vous et montre tant de faiblesse. Soyez mon ami, soyez-le toujours, je le mérite. » Wilhelm l'exhortait de la manière la plus tendre. Soins inutiles. Ses larmes coulaient toujours et lui étouffaient la voix. En ce moment, Serlot survint, très mal à propos, et avec lui, très soudainement, Philine, qu'il tenait par la main. « Voici votre ami, » dit-il à Philine. « Il sera charmé de vous saluer. »«
Eh quoi ? » s'écria Wilhelm, étonné. « Je vous rencontre ici ?»
Elle vint à lui d'un air modeste et posé, lui souhaita la bienvenue, vanta la bonté de Serlot, qui avait bien voulu, non pour son mérite, mais seulement dans l'espérance qu'elle se formerait, l'admettre dans son excellente troupe. Elle se montra d'ailleurs amicale avec Wilhelm, mais à une distance respectueuse. Cette dissimulation ne dura qu'autant que les deux autres personnes furent présentes. Aurélie s'étant retirée pour cacher sa douleur et quelqu'un ayant appelé Serlot, Philine regarda aux portes avec précaution s'ils étaient bien partis l'un et l'autre. Puis elle sauta comme une folle dans la chambre, s'assit par terre et pensa mourir de rire. Puis elle se releva d'un bond, fit 1000 caresses à notre amie et s'applaudit sans mesure d'avoir eu la sagesse de prendre les devants, de sonder le terrain et de se caser. « On mène ici une vie un peu bigarrée, » lui dit-elle, « justement comme il me la faut. Aurélie s'était prise d'une malheureuse passion pour un gentilhomme, qui doit être un homme superbe et que je voudrais bien voir une fois. Il lui a laissé un souvenir, où je suis bien trompée. Je vois courir ça et là un petit garçon de 3 ans, beau comme le soleil. Le papa doit être charmant. Je ne puis souffrir les enfants, mais celui-là m'amuse. » J'ai fait mes calculs. La mort du mari, la nouvelle liaison, l'âge de l'enfant, tout s'accorde. Maintenant, l'ami court le monde. Depuis une année, on ne le voit plus. Elle en est hors d'elle-même, la folle. Le frère a dans la troupe une danseuse, qui l'amuse, une petite actrice, avec laquelle il est au mieux. Et dans la ville, quelques dames encore, auxquelles il fait la cour. À présent, je suis aussi sur la liste. Le fou. Pour le reste de la troupe, je t'en parlerai demain. Et maintenant, encore un petit mot de cette Philine que tu connais. La pauvre folle est amoureuse de toi.
Elle jura que c'était la vérité, et puis elle assura que c'était une pure plaisanterie. Elle supplia Wilhelm de vouloir bien être amoureux d'Aurélie, ce qui ferait la partie de chasse la plus belle du monde. Elle court après son infidèle. Toi, tu cours après elle, moi, je cours après toi, et le frère après Philine. S'il n'y a pas là de quoi s'amuser 6 mois, je veux bien mourir, au premier épisode qui viendra se jeter dans la quadruple intrigue de ce roman. En finissant, la jeune comédienne pria Wilhelm de ne pas lui faire tort et de lui témoigner autant d'estime qu'elle voulait en mériter par sa conduite publique. Chapitre 15. Le lendemain, Wilhelm alla rendre visite à Madame Mélina et ne la trouva pas chez elle. Il demanda les autres membres de la troupe ambulante et il apprit que Philine les avait invités à déjeuner. Il y courut, par curiosité, et les trouva tous joyeux et consolés. La droite créature les avait réunis, leur avait offert le chocolat et leur donnait à entendre que tout espoir n'était pas perdu. Elle saurait, disait-elle, faire comprendre au directeur combien il serait avantageux pour lui de recevoir dans sa troupe des gens de ce mérite. Ils écoutaient dévotement, buvaient tasse sur tasse, trouvaient que la jeune personne était assez gentille, et ils se promettaient de chanter ses louanges. « Croyez-vous donc, lui dit Wilhelm lorsqu'ils furent seuls, que Serlo pourra se résoudre encore à garder nos camarades ?»« Nullement, répondit-elle, et je ne m'en soucie pas du tout. Je voudrais les voir déjà partis, et ne tiendrais à garder que Laerte. Nous écarterons peu à peu les autres. » Là-dessus, elle fit entendre à notre amie qu'elle était parfaitement convaincue qu'il ne laisserait pas plus longtemps son talent enseveli et qu'il monterait sur la scène, sous un directeur tel que Serlo. Elle ne pouvait assez vanter l'ordre, le goût, l'esprit qui régnait dans son administration. Elle parla d'une manière si caressante à notre amie. Elle fit de ses talents des éloges si flatteurs qu'il sentait son cœur et son imagination inclinés vers cette proposition, autant que son jugement et sa raison l'en éloignaient. Il cachait à Philine, il se cachait à lui-même son penchant, et passa une journée inquiète, sans pouvoir se résoudre à visiter les correspondants auxquels il était adressé et à retirer les lettres qu'il pouvait avoir pour lui. En effet, quoiqu'il pût se figurer l'inquiétude de ses parents, il craignait cependant d'apprendre avec détail leurs soucis et leurs plaintes, d'autant plus qu'il se promettait pour le soir une grande et pure jouissance à la représentation d'une pièce nouvelle. Serlo avait refusé de l'admettre à la répétition. « Il faut, lui dit-il, que vous appreniez d'abord à nous connaître par notre plus beau côté, avant que nous vous permettions de voir le dessous des cartes. » La représentation procura en effet à notre ami la plus grande jouissance. C'était la première fois qu'il voyait le spectacle à ce point de perfection. Tous les acteurs avaient des talents remarquables, d'heureuses dispositions, une idée élevée et claire de leur art, et cependant ils n'étaient pas égaux entre eux, mais ils se soutenaient et se secondaient mutuellement. Ils s'animaient l'un l'autre et mettaient dans tout leur jeu beaucoup d'exactitude et de précision. On sentait bientôt que Serlo était l'âme de tout, et il se distinguait lui-même d'une manière fort avantageuse. Une verve comique, une vivacité modérée, un juste sentiment des bienséances, avec un talent remarquable d'imitation, se faisait admirer chez lui, dès qu'il paraissait sur la scène et qu'il prenait la parole. Sa bonne humeur semblait se répandre dans toute l'assemblée, et la manière ingénieuse dont il exprimait, avec grâce et facilité, les nuances les plus délicates de ses rôles, faisait d'autant plus de plaisir qu'il savait cacher l'art dont il s'était rendu maître par un exercice persévérant. Sa sœur Aurélie ne lui était pas inférieure. Elle était même encore plus applaudie, parce qu'elle émouvait les cœurs, qu'il savait si bien amuser et réjouir. Après quelques jours agréablement passés, notre amie fut priée par Aurélie de se rendre chez elle. Il y courut et la trouva assise sur son canapé. Elle souffrait d'un mal de tête et faisait de vains efforts pour dissimuler un accès de fièvre. À la vue de Wilhelm, son regard devint plus serein. « Pardonnez-moi, lui dit-elle, la confiance que vous m'avez inspirée m'a rendue faible. Jusqu'ici, j'ai pu m'entretenir en secret avec ma douleur. Elle me donnait même de la force et du courage. Maintenant, vous avez, je ne sais comment, brisé les liens de la réserve, et vous prendrez part, fût-ce malgré vous, au combat que je soutiens contre moi-même. » Wilhelm lui répondit avec grâce et cordialité. Il assura que l'image et la douleur d'Aurélie l'avaient constamment occupé, qu'il serait heureux d'obtenir sa confiance et qu'il se déclarait son ami. Comme il parlait ainsi, ses yeux se fixèrent sur le petit garçon qui était assis par terre devant lui, entouré de joujoux qu'il mêlait confusément. Il pouvait avoir 3 ans, comme Philine l'avait dit, et Wilhelm comprit comment l'étourdi, qui se servait rarement d'expressions relevées, avait pu comparer cet enfant au soleil. Autour de ses grands yeux et de son visage arrondi, flottait en boucles dorées la plus belle chevelure. Sur un front d'une blancheur éblouissante, des sourcils bruns, délicats, dessinaient leur élégante courbure. Le coloris de la santé brillait sur ses joues. « Placez-vous près de moi, » dit Aurélie. « Vous regardez cet heureux enfant avec surprise. Je l'ai reçu dans mes bras avec joie. Je le garde avec soin. Mais il me fait bien juger l'étendue de mes douleurs, car elle me laisse rarement sentir le prix d'un pareil trésor. « Souffrez, » poursuivit-elle, « que je vous parle aussi de moi et de ma destinée, car j'attache un grand prix à ne pas être méconnue de vous. Je croyais avoir quelques moments de calme, c'est pourquoi je vous ai fait demander. Vous voilà, et je me sens troublée. Encore une femme abandonnée, direz-vous peut-être. Vous êtes un homme, et vous dites en vous-même, comme elle s'agite pour un mal nécessaire, dont une femme est plus certainement menacée que la mort. Tant de bruit pour un homme infidèle, la folle. Oh, mon ami, si ma destinée était ordinaire, je saurais supporter doucement un mal ordinaire. Mais il sort de la règle commune. Que ne puis-je vous en montrer l'image dans un miroir fidèle? Que ne puis-je charger quelqu'un de vous le raconter? Oh, si j'avais été séduite, surprise et puis abandonnée, je trouverais encore un soulagement dans le désespoir. Ma situation est bien plus cruelle. C'est moi qui me suis séduite. Je me suis trompée moi-même, et j'ai voulu l'être. Voilà ce que jamais je ne pourrais me pardonner. »
Avec des sentiments aussi nobles que les vôtres, répondit Wilhelm, vous ne pouvez être tout à fait malheureuse.
Et savez-vous à qui je les dois ces sentiments? À la plus détestable éducation qui aurait jamais dû corrompre une jeune fille. À l'exemple le plus mauvais, le plus fait pour égarer le cœur et les sens. Après la mort prématurée de ma mère, je passai les plus belles années de mon adolescence chez une tante qui s'était fait une loi de braver les lois de l'honneur. Elle se livrait aveuglément à toutes ses passions, et soit qu'elle fût avec ses amants, l'esclave ou la maîtresse, toujours satisfaite, pourvu que dans ses plaisirs effrénés, elle pût s'oublier elle-même. Enfant comme nous l'étions, avec le regard limpide et pur de l'innocence, quelle idée pouvions-nous nous faire des hommes? Comme ils étaient stupides, importuns, effrontés, impudents, ceux qu'elle attirait auprès d'elle. Comme ils étaient dégoûtés, dédaigneux, hébétés, insipides, aussitôt qu'ils avaient satisfait leurs désirs. C'est ainsi que j'ai vu, des années entières, cette femme avilie sous la tyrannie des êtres les plus pervers. Quel traitement ne devait-elle pas souffrir, et de quel front savait-elle se résigner à son sort? De quel air porter ses honteuses chaînes? Voilà, mon ami, comment j'appris à connaître votre sexe. Oh, comme je sus le haïr franchement, quand je crus observer que même des hommes estimables semblaient renoncer, dans leur rapport avec les femmes, à tous les bons sentiments dont la nature les avait d'ailleurs rendus capables. Malheureusement, je dus aussi, dans ces circonstances, faire sur mon sexe beaucoup d'expériences affligeantes. Et en vérité, à l'âge de 16 ans, j'étais plus raisonnable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui que je puis à peine me comprendre moi-même. Pourquoi sommes-nous si sages quand nous sommes jeunes, si sages pour devenir toujours plus insensés? L'enfant faisait du bruit. Aurélie en fut importunée, elle sonna, une vieille femme vint le chercher. « As-tu toujours mal aux dents ?» dit Aurélie à la vieille qui avait la tête enveloppée d'un mouchoir. « Un mal insupportable !» répondit-elle d'une voix sourde. Puis elle prit l'enfant, qui parut la suivre volontiers, et elle l'emporta. À peine l'enfant fut-il sorti, qu'Aurélie se mit à pleurer amèrement. « Je ne sais que pleurer et gémir, » s'écria-t-elle, « et je rougis de paraître à vos yeux comme le ver qui rampe sur la terre. Tout mon sang-froid m'abandonne, et je ne puis continuer ce récit. » Elle s'interrompit brusquement et garda le silence. Wilhelm, ne voulant pas lui faire entendre des paroles banales, et ne sachant que lui dire qui pût répondre à sa situation, lui pressa la main dans les siennes, éteint quelques moments les yeux fixés sur elle. Enfin, dans son embarras, il prit un livre qu'il trouva devant lui sur le guéridon. C'était un volume de Shakespeare, ouvert à la pièce d'Hamlet. Serlot, qui parut à ce moment, s'informa de la santé de sa sœur, jeta les yeux sur le livre que notre ami tenait à la main et dit vivement « Je vous trouve encore occupé de votre Hamlet ?» « Fort bien. Il s'est présenté à mon esprit plusieurs doutes, qui me semblent beaucoup affaiblir l'autorité canonique qu'il vous plaît d'attribuer à cette pièce. Les Anglais eux-mêmes ont pourtant reconnu que l'intérêt principal disparaît avec le troisième acte, que les deux derniers se relient faiblement à l'ensemble, et véritablement, vers la fin, la pièce ne marche plus. » « Il est possible, dit Wilhelm, que chez un peuple qui possède tant de chefs-d'œuvre, quelques hommes soient conduits par leurs préjugés ou leurs vues bornées à de faux jugements. Mais cela ne doit pas nous empêcher de voir par nos propres yeux et d'être justes. Je suis bien loin de condamner le plan de cette pièce. Je crois au contraire que l'on n'en conçut jamais de plus grand. Que dis-je? Ce n'est pas une conception, c'est la réalité même. »
« Comment expliquez-vous cela ? » dit Serlot.
« Je ne veux rien expliquer. Je veux seulement vous exposer ma pensée. » Aurélie se souleva sur ses coussins, appuya sa tête sur sa main et fixa ses regards sur notre ami, qui, avec la plus ferme conviction que la raison était de son côté, poursuivit en ces termes. « Nous sommes charmés, nous sommes flattés de voir un héros qui agit par lui-même. » Qui aime et qui hait quand son cœur l'ordonne, qui entreprend et exécute, écarte tous les obstacles et parvient à un grand but. Les historiens et les poètes voudraient bien nous persuader qu'une si glorieuse destinée peut être celle de l'homme. Ici, nous recevons une autre leçon. Le héros n'a pas de plan, mais celui de la pièce est parfait. On ne voit pas ici un scélérat puni, par suite d'une idée de vengeance constamment et obstinément poursuivie. Non, un horrible forfait est commis, il se développe dans ses conséquences, il entraîne des innocents, le criminel semble éviter l'abîme qui lui est destiné, et il y tombe, à l'instant même où il pense échapper et poursuivre heureusement sa carrière. Car c'est le propre des actions criminelles d'étendre aussi le mal sur les têtes innocentes. Comme celui des actions vertueuses, de répandre même sur les indignes beaucoup de bien, quoique souvent les auteurs des unes et des autres ne soient pas punis ou récompensés. Ici, dans notre pièce, quel merveilleux spectacle! Le purgatoire envoie son spectre et demande vengeance, mais en vain. Toutes les circonstances conspirent et poussent à la vengeance. C'est en vain. Les puissances terrestres et souterraines ne peuvent accomplir l'œuvre qui n'est réservée qu'au destin. L'heure de la justice arrive, le méchant tombe avec le bon, une race est retranchée, une autre s'élève. Après un moment de silence pendant lequel leurs regards se consultèrent, Serlot prit la parole.
Vous ne faites pas à la Providence un fort beau compliment,
en même temps que vous glorifiez le poète. Et d'un autre côté, vous me semblez faire, en l'honneur de votre poète, ce que d'autres font en l'honneur de la Providence. Vous lui attribuez un but et un plan auxquels il n'a pas songé.